Chapitre 9 L'ouverture du testament. Le comte Poltavo était devenu un homme considérable et fort affairé. Entrant ce jour-là dans le coquet appartement qu'il occupait dans une grande maison locative, il s'énumérait à soi-même ses succès en souriant de satisfaction. Et il avait en effet bien des raisons de contentement, ce jeune aventurier, arrivé peu de mois auparavant à Londres, sans autre fortune qu'un complet de ville et un habit de soirée. Il avait été reçu sans délai dans des cercles mondains les plus fermés. Il avait été présenté à nombre de personnages influents et était devenu le familier de plusieurs grandes dames. S'il y avait, il est vrai, quelque part dans la ville, un jeune journaliste bilieux et visiblement altéré de son sang, le comte Poltavo n'en avait cure. Il avait eu en particulier la bonne fortune de découvrir par pur hasard que Farrington était dans une situation financière désespérée, qu'il n'était qu'un escroc, associé, croyait-il, avec le mystérieux Fallock. Il lui restait maintenant à savoir jusqu'à quel point l'affection de Farrington pour sa nièce avait résisté à ses malhonnêtes opérations. En tout cas, il pensait, en mettant la clé dans la serrure, qu'il avait tous les atouts en main et, si le prix de la victoire devait être la délicieuse Doris Gray, le comte, fort sentimental, malgré son absence de scrupules, pouvait se frotter les mains. Il entra, passa dans sa chambre à coucher et se contempla longuement dans la glace. Il aimait fort à se regarder, et quand on l'en blâmait comme d'une marque de vanité, il répondait que c'était en sa propre image seule qu'il pouvait avoir une confiance entière. Et il n'avait pas tort de contempler avec complaisance le reflet de son sourire heureux, car chaque jour qui passait mettait de plus en plus Doris sous son influence, sinon en son pouvoir. Il n'avait pas de domestique. Seule une vieille femme venait chaque matin mettre sa garçonnière en ordre. Aussi, cette fois-là, lorsqu'il entendit sonner, il alla ouvrir lui-même, tout prêt à recevoir le laitier ou à discuter du prix d'un chou avec le primeur, car il n'était pas au-dessous de lui de se livrer à ses besognes tant que ses ressources étaient maigres. Il ouvrit donc la porte et recula d'un pas. « Entrez donc, monsieur Doveton, » dit-il en se ressaisissant. Frank Doveton suivit le comte dans son petit salon. « À quoi dois-je l'honneur de votre visite ?» dit Poltavo en offrant un siège. « Bien, je désirais vous entretenir d'une question qui nous touche fort tous les deux, » répondit le jeune homme sèchement. Le comte s'inclina. Il sentait bien que son visiteur n'avait pas des intentions bien agréables, mais il n'éprouvait aucune timidité ni aucune crainte. Il avait affronté des situations bien plus menaçantes que celle-ci, et en était sorti à son avantage. Oh, « Je ne puis guère vous donner plus d'un quart d'heure, » dit-il, « car je dois être sous peu à Bradley Square pour assister à la lecture des dernières volontés de M. Farrington. »« Je sais, » riposta Frank, « j'y suis convoqué également. »« Vous aussi ?» s'étonna le comte. Il devait figurer à l'ouverture du testament en qualité d'ami et de conseiller de Doris Gray, conformément au terme d'une lettre que possédait la jeune fille. En trois lignes, ce message lui enjoignait d'avoir confiance en Poltavo pour tout. Et c'était d'ailleurs au sujet de cette lettre que le jeune Doveton était venu voir le comte. Il alla droit au but. « Comte, dit-il, le lendemain de la disparition de M. Farrington, Une lettre fort importante a été apportée à Miss Gray en ma présence. Je sais, dit Poltavo. Certes, s'écria Downton, vous le savez, puisque cette lettre vous concernait, et qu'elle conseillait à Dorry de se fier absolument à vous. Il m'était fait espérer en outre que le corps retrouvé dans la Tamise n'était pas celui de Farrington. Poltavo secoua la tête. Oh, cet espoir a été déçu, dit-il. L'enquête officielle a conclu au suicide de M. Farrington. Oui, c'est exact, mais la sûreté a conservé des doutes à ce sujet, répondit Frank. Et pour en revenir à la lettre en question, elle a eu pour effet de faire de vous l'ami et le conseiller de Doris Gray. C'est pourquoi, poursuivit-il en frappant sur la table, je suis venu vous parler sans détour. En anglais loyal, je n'aime pas les ruses et les subterfuges. J'aime à parler clairement. Et je trouve mauvais que Miss Gray soit sans cesse prévenue contre un homme qui n'a d'autre but dans la vie que de la servir avec le plus grand dévouement. Le comte haussa les épaules. Mon cher monsieur, dit-il, j'espère bien que vous n'êtes pas venu me prier d'intercéder en votre faveur auprès de Miss Gray, car je ne pourrais évidemment pas faire grand-chose pour vous. Vous connaissez l'adage, dans la guerre comme en amour, tout est permis. En amour, avez-vous dit, fit l'autre en le regardant droit dans les yeux. Oui, en amour, répéta le comte. Car ce n'est, je crois, le privilège de personne de monopoliser tout l'amour du monde, et personne n'a le droit d'empêcher les autres d'aimer ce qu'il aime. Ce que vous admirez en Miss Gray, je ne le trouve pas détestable, mon ami. Ce qui est regrettable, et ce que j'aurais voulu éviter à tout prix, c'est le fait même de cette rivalité. Malheureusement, elle existe, tant pis. Mais j'ai quelques raisons de croire que M. Farrington avait des vues arrêtées sur l'avenir de sa nièce, et je me flatte d'en avoir été favorisé. Expliquez-vous nettement. Eh bien, reprit Poltavo en haussant les épaules, quelque temps avant de disparaître, M. Farrington m'a dit en propre terme qu'il avait le plus vif désir d'assurer le bonheur de Doris en me la confiant. Frank Downton pâlit. « Mais ceci est un mensonge » s'écria-t-il. « Je connaissais les projets de Farrington aussi bien que vous, mieux même à en juger par l'interprétation que vous leur donnez. Et quelle est, je vous prie, votre interprétation personnelle? Je me refuse à en discuter avec vous. Mais je tenais simplement à vous avertir que, si par aventure j'apprenais que vous vous livrez à de déloyales manœuvres contre moi, je vous en ferai repentir. Permettez-moi de vous reconduire, dit le comte en se levant. On n'est pas habitué dans ma famille à se laisser menacer impunément. Ne parlez pas de votre famille, répondit Frank froidement. Cela vaudra mieux pour vous. Si je dois un jour rechercher les hauts faits, je sais d'avance à qui je pourrais m'adresser. Et à qui donc? Fit le comte hautain. Au directeur de la prison d'Alexandrovski, répondit le jeune Downton en franchissant le seuil. Le comte Poltavo referma la porte et demeura un moment songeur.
Les parents et amis de M. Farrington s'étaient rassemblés en silence dans le grand salon de l'immeuble de Radcliffe Square. Au grand déplaisir du comte, Frank Downton l'y avait précédé. S'était assis à côté de Doris en grand deuil et avait engagé une conversation soutenue avec elle. Cependant, Poltavo ne crut pas prudent d'essayer de les séparer à ce moment et se contenta d'attendre les événements. M.T.B. Smith était également présent. En qualité de chef de la sûreté, il n'avait eu qu'un mot à dire pour se faire convoquer discrètement à cette réunion de famille. Le principal clerc de l'étude de maître Debenhome, avec son secrétaire, était assis devant une large table où ils avaient déposé une volumineuse enveloppe étoilée de gros cachets rouges. Pour plusieurs des assistants, le contenu de cette enveloppe était d'une grande importance. Farrington n'avait laissé aucune dette personnelle. Quelles que fussent les pertes qu'il avait pu occasionner aux sociétés financières qu'il administrait, il lui restait en tout cas quelque chose de sa fortune personnelle. À son grand étonnement, M. Smith avait découvert au cours de son enquête que la fortune de Miss Gray était intacte. Il connaissait d'avance quelques-unes des dispositions testamentaires qui allaient surprendre au moins trois des assistants, et il avait tenu à être présent dans le but de voir confirmer certains détails dont il se doutait déjà. Profitant de ce que Doris Gray avait été causée un instant avec l'homme de loi, Tibby Smith vint s'asseoir à côté de Frank Doveton. « Vous étiez ami de M. Farrington, n'est-ce pas ?» lui dit Creed. « Oui. Un ami intime ?» Bon, je n'oserais le dire moi-même, mais ce que je puis affirmer, c'est que M. Farrington s'est montré toujours très bon pour moi. Mais de quelle façon dois-je interpréter cette bonté de sa part? Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de vous poser une question si directe, mais vous savez que j'ai toute raison d'être curieux. Je sais, répondit le jeune Doveton en souriant légèrement, que vous n'êtes pas particulièrement disposé en sa faveur, et en somme, je m'étonne même un peu de votre présence ici, après ce qui est arrivé au théâtre. Ah, vous faites allusion à mon intention de l'arrêter ce soir-là. Mais qu'y a-t-il là de tellement extraordinaire? Il arrive à bien des millionnaires de se trouver mêlés à des opérations plus ou moins illégales. Bon, pour en revenir, si vous le permettez, à ma question, je serais assez curieux de savoir les causes profondes de l'affection que vous portez, M. Farrington, et de quelle façon il vous témoignait sa bonté. Frank Doveton hésita. Par-dessus tout, il voulait rester fidèle à l'homme qui, malgré ses fautes, s'était montré son véritable ami. « Eh bien, dit-il par exemple, M. Farrington m'avait chargé d'une recherche qui aurait pu me rapporter, en cas de réussite, une centaine de mille livres. « Ah, puis-je savoir de quoi il s'agissait ?» demanda M. Smith, vivement intéressé. Aussi brièvement que possible, Frank lui exposa l'affaire de l'héritier inconnu d'un certain Tollington. « À vrai dire, conclut-il, je n'étais pas l'homme indiqué pour cette tâche. J'aurais dû vous passer cette affaire. J'ai absolument rien d'un détective. Mais cela vous montre combien M. Farrington me voulait du bien. » M. Smith réfléchit un moment. « Si je me rappelle bien les faits, dit-il, Tollington était roi de quelque chose en Amérique. Il mourut sans héritier direct, et l'on suppose que ses seuls parents habitent l'Angleterre. » Il fronça du sourcil dans son effort pour retrouver les dates et les détails de cette affaire. « Oui, oui, dit-il enfin, oui, Farrington était un de ses exécuteurs testamentaires, lui, un vieil ami de Tollington. Mais, ajouta-t-il, comme se parlant à lui-même, ces sommes ne seraient pas saisissables, car il y a quatre autres exécuteurs qui occupent de hautes positions dans la finance américaine et sont connus pour leur intégrité. Merci de m'avoir parlé de cela, j'y repenserai. Et si je puis vous aider à mener à bonne fin les intentions de M. Farrington, soyez sûr que je le ferai avec le plus grand plaisir. » À ce moment, un léger brouhaha se produisit à l'autre bout du salon. Chacun se rasseyait et prenait une pause attentive. Le notaire se leva, s'éclaircit la voix. « Mesdames, messieurs, dit-il au milieu d'un grand silence, mes fonctions m'appellent à vous lire le testament de M. Farrington. » Et comme la teneur s'adresse à plusieurs personnes ici présentes, je vous serai reconnaissant de me prêter toute votre attention. Le testament, après les préliminaires légaux, débutait par quelques petits legs à des institutions charitables. Après les avoir énumérés, le lecteur s'interrompit et, regardant par-dessus ses lunettes, déclara « Je crois devoir avertir l'assistance que le paiement de ces premiers legs est subordonné à l'existence d'un capital minimum et libre de toute autre obligation dans la succession. Ceci dit, je continue. Sachant que ma chère nièce et pupille est personnellement pourvue d'une fortune suffisante, je ne puis que lui affirmer ici pour la dernière fois ma vive affection. J'exprimerai cependant le vœu qu'elle se marie le plus tôt possible avec celui que je lui souhaite très ardemment pour mari. Je veux dire avec mon excellent ami Frank Dawson. » Doris poussa un cri de surprise. Poltavo rougit et pâlit tour à tour. Frank frissonnait de bonheur. Et M. Smith, qui connaissait ces paragraphes du testament, considérait attentivement les jeux de physionomie des auditeurs intéressés. C'est ainsi qu'il devina des remords chez la jeune fille, de l'étonnement joyeux chez Dawson et de la rage froide chez Poltavo. Connaissant l'insécurité des placements actuels et craignant que les capitaux de ma nièce ne soient engloutis en quelqu'une de ces catastrophes financières si fréquentes de nos jours, j'ai déposé toute sa fortune d'une valeur de 800 000 livres dans un coffre de la Banque des dépôts et consignations de Londres. Et, m'autorisant des pouvoirs qui m'ont été transmis par le père de Doris Gray, j'ai pris des dispositions pour que la clé du dit coffre lui soit remise le jour de son mariage avec Frank Dawson. Si elle refuse, ou si pour une raison quelconque ne réalise pas mon désir à ce sujet, ses capitaux ne pourront lui être délivrés que 5 ans pleins à partir du jour de mon décès. Le notaire s'arrêta un moment. Le silence régnait. Poltavo passait visiblement par 1000 sentiments violents, et M. Smith, qui l'observait sans cesse, aurait beaucoup donné pour pouvoir lire clairement les pensées qu'il agitait en ce moment. Mais la lecture reprit. « À Frank Dawson, je lègue la somme de 1000 livres pour l'aider à rechercher l'héritier de Tollington. » À T.B. Smith, officier de la police de sûreté, en admiration pour les services qu'il rend à la société, je lègue la somme de 1000 livres, laquelle doit être doublée le jour où il met en la main sur l'abominable malfaiteur Montague Fallock. Le lecteur releva les yeux. « Cette disposition aussi, dit-il, est subordonnée à certaines conditions. » Oui, que je connais parfaitement, répondit vivement le policier. Passez. Il ne restait plus grand-chose à lire. Les derniers paragraphes disposaient de quelques objets mobiliers et enfin léguaient quelques bijoux au comte Poltavo. C'était tout. Le notaire enleva ses lunettes et les replaça dans sa poche. Je n'ai que quelques mots à ajouter, dit-il. C'est que les dépôts en banque de M. Farrington sont encore très considérables. Il appartient maintenant au tribunal de dire si ces sommes sont disponibles ou si elles doivent être retenues pour couvrir les déficits des établissements dont s'occupait le défunt. En d'autres termes, c'est l'autorité compétente qui décidera si, dans certaines affaires, la responsabilité financière de M. Farrington était limitée ou non. Il y eut dans le salon une légère rumeur de chaises déplacées et de conversations particulières. Poltavo en profita pour aller rapidement interviewer le notaire. Il échangea quelques mots avec lui et se glissa vers la porte. Même M. Smith le suivit et le rejoignit dans l'escalier. « Puis-je vous dire 2 mots ? » lui demanda-t-il. « Oh, certainement, » répondit le comte, qui avait repris toute son urbanité froide et distante. « Les dispositions de ce testament vous ont surpris ? J'avoue, en effet, répondit Poltavo d'un air hautain, ne pas très bien comprendre les idées de Farrington au sujet de... Il hésita. Du mariage de Miss Way, n'est-ce pas? Alors, tout à coup, le beau gentilhomme perdit tout son sang-froid. Il répondit d'une voix altérée par la colère. Cet animal m'a abominablement trompé. Mais je ne me laisserai pas faire, mille fois non. Cette jeune fille m'est plus précieuse que l'on ne croit. Ah, mais peut faire cela à moi. Puis-je vous parler en particulier, ajouta-t-il après avoir repris son souffle. À votre entière disposition, répondit M. Smith, qui fit de la main un signal presque imperceptible. Aussitôt, un taxi qui roulait doucement derrière eux s'approcha et stoppa à leur côté. Ils montèrent et, sans avoir reçu d'ordre, le chauffeur se dirigea vivement vers la préfecture de police. Lorsqu'il entra dans le bureau de M. Smith, Poltavo avait recouvré son calme. Il fit quelques pas de long en large, les mains dans les poches, la tête penchée d'un air profondément méditatif. « Maintenant, fit le chef policier en s'asseyant à sa table, qu'aviez-vous donc à me confier ?»« Beaucoup de choses, répondit Poltavo, mais je suis maintenant en train de me demander s'il est de mon intérêt de les dire maintenant ou s'il est préférable que je garde le silence un peu plus longtemps. À l'égard de Farrington, puis-je vous aider à vous soulager de ce que vous savez ?» « Bon, je ne le crois pas. Vous ne le connaissez pas comme je le connaissais. Oui, j'avais l'intention de vous révéler des choses qui vous auraient surpris, mais je viens de songer qu'il me vaut mieux attendre un jour ou deux afin d'avoir le temps de donner à certaines personnes l'occasion de réparer leurs erreurs. Il me faut partir immédiatement pour Paris. » Monsieur Smith ne répondit rien. Il était inutile de forcer les événements. Poltavo était de nouveau en pleine possession de ses moyens et l'on pouvait être satisfait s'il parlait seulement un peu plus tard, comme il l'avait promis. Le chef de police chercha un autre sujet de conversation. « Vous plairait-il de visiter les services de la préfecture ? » dit-il aimablement. « Oui, je serais enchanté, » répondit le comte. Monsieur Smith le conduisit à l'extrémité d'un long corridor, sonna pour l'ascenseur qui les déposa au troisième étage. Là, à l'extrémité d'un long couloir, se trouvait une vaste pièce garnie de casiers sur tout son pourtour. « Voici la salle des fiches, » dit M. Smith, « et je crois qu'elle vous intéressera tout particulièrement. Pourquoi ?» fit l'autre en souriant. « Ben, parce que vous êtes curieux, m'a-t-on dit, des méthodes de recherche criminelles. » Il passa entre deux rangées de casiers et s'arrêta soudain. « Voici, par exemple, » dit-il, « des documents concernant un homme redoutable. » Il ouvrit le casier, chercha du bout des doigts le dossier désiré, le prit et le déposa sur une large table cirée. Il approcha deux chaises. « Asseyons-nous, » dit-il au comte, « je vais vous présenter un des maîtres criminels européens. » Il ouvrit le dossier et en tira deux enveloppes. De la première, il sortit la photo d'un homme en uniforme militaire russe. Poltavo y jeta un coup d'œil, eut une exclamation étouffée et pâlit. « C'est le portrait d'un gouverneur militaire du Don, » dit M. Smith. « Il fut assassiné il y a quelques années par un individu qui se fit passer pour son fils. » Le comte s'est élevé et semblait haletant. « Oh, je n'ai jamais vu ce gouverneur, » dit-il. Et puis-je vous confier que l'atmosphère ici est étouffante. Votre système de ventilation doit être mauvais. Attendez une minute, répliqua M. Smith sans s'émouvoir, en prenant la seconde enveloppe. Il en sortit d'une autre photographie, celle d'un homme jeune et de belle prestance. Connaissez-vous cet homme ? Paul Tabot ne répondit pas. Bien, c'est le portrait de l'assassin. Et ce n'est pas là son seul crime. Voici d'autres photos qui nous le montrent de plus en plus avancé dans la voie du mal. Et tenez, regardez ce portrait de cette jeune femme en robe de bal. C'est la princesse Lydia Boutavsky, autre victime du même criminel. Et puis celle-ci, cette autre femme fut assassinée à Kiev par notre excellent professionnel. Maintenant, voici le rapport détaillé du pillage d'une banque organisée il y a 5 ans par de prétendus anarchistes, sous la conduite du même héros. Mais je vois que cela ne vous intéresse guère. Il referma le dossier avant de relever les yeux. Le comte était maintenant d'une pâleur de cire. Mais si, bégaya-t-il. Non, cela m'intéresse. Il sortit de la salle en trébuchant. Voici l'escalier de sortie, dit M. Smith. Et avant de vous quitter, permettez-moi, comte, de vous conseiller de faire attention à vos pas. Je vais avoir l'obligation de laisser savoir à la police étrangère que vous êtes en Angleterre. Elle réagira ou non, je n'en sais rien. Vos compatriotes ne sont pas particulièrement énergiques en ce qui concerne les vieilles histoires, mais je dois vous avertir, conclut-il en lui mettant la main sur l'épaule, que si je vous trouve sur mon chemin, cela pourra avoir de très sérieuses conséquences pour vous. 2 minutes plus tard, Paul Tabot sortait de la préfecture, se demandant s'il avait rêvé. Il héla un taxi et rentra chez lui. Il a ressorti au bout de 10 minutes une petite valise à la main. Il se fit conduire au grand hôtel de Marylebone, où le suivit un second taxi contenant l'inspecteur Ella. Ce dernier attendit que le comte fût entré et puis passa lui-même dans le hall. Il ne l'y aperçut pas. Il traversa le grand vestibule et s'aperçut que l'hôtel avait là une autre entrée donnant sur la route de Marylebone. Il se hâta, questionna le portier. Celui-ci fut très affirmatif. Il avait vu le gentleman en question sortir par là et prendre un taxi. Et là comprit sa sottise. Il alla téléphoner sa mésaventure à son chef, qui ne le complimenta guère. « N'importe, ajouta-t-il, je crois savoir où nous pourrons le rattraper. Venez à la gare de Waterloo, nous allons y prendre ensemble le train de 6h15 pour Bradley. »